RPL.
89.2. Avec le docteur Laurent Schwartz, et on va parler de ses ouvrages, notamment le livre de 2024, Le bleu de méthylène, aux éditions Soucard. Merci d'être avec nous, docteur Laurent Schwartz.
Bonjour.
Et bienvenue. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'est de revenir un peu sur votre parcours professionnel, Université de Strasbourg, dont vous êtes sorti major, et puis vous allez à Harvard en oncologie, et vous êtes chercheur ensuite au National Cancer Institute. Et là, je vais vous questionner sur votre retour en France. Vous racontez dans les interviews que lorsque vous revenez en France, vos patients, vous ne les retrouvez pas. Vos patients, ils sont tous décédés. Et est-ce que c'est un des chocs qui vous a fait remettre en question les choses? Et on va y venir, mais et à essayer de travailler de façon transversale avec d'autres spécialistes, d'autres disciplines, pas uniquement médicales.
Ben écoutez, je vous remercie d'abord de m'interviewer en ces moments de juste avant les fêtes.
Merci aussi à vous d'être présent, oui, effectivement, à des périodes où on est tous occupés à d'autres choses.
Oui, sur des sujets qui ne sont pas que faciles, et encore moins à la radio, où évidemment on ne peut pas faire les schémas compliqués et ainsi de suite. Moi, je viens du monde de la cancérologie clinique. J'ai tous les coups de tampon censés représenter un intellectuel, entre Harvard, le MIT et puis longtemps Polytechnique. Et au fond, ce qui m'a frappé au début, mais ce qui me frappe encore maintenant, c'est au fond que ce monde n'a pas autant changé que ce qu'on pouvait espérer. Quand on prend les chiffres de la mortalité, c'est celle qui compte. Vous savez, chaque fois que quelqu'un meurt en France, on fait un certificat de décès, donc on a la cause du décès. Donc on peut tabuler, voir comment ça évolue, ainsi de suite. Et on voit que la mortalité par cancer n'a pas beaucoup bougé entre quand j'étais jeune et maintenant, c'est-à-dire qu'en 50 ans, la mortalité par cancer est grosso modo une constante. Alors, il y a des vrais succès, il y a la lutte contre le tabac, évidemment, c'est très bien de ne pas fumer.
Vous dites aussi que le dépistage, docteur, vous dites aussi que le dépistage a beaucoup progressé, ce qui fait qu'on dépiste plus de petits cancers ou de cancers en phase de début, mais c'est aussi, ça fausse un peu les chiffres, parce que, en fait, certains de ces cancers n'auraient jamais tué un patient, donc en fait, tout dépend des chiffres, mais une partie des chiffres, vous les remettez en question, que le taux de survie augmente artificiellement à cause de ces progrès dans la détection.
C'est ce que j'essaie de vous dire, la mortalité globale par cancer n'a pas bougé. C'est-à-dire que ces techniques de dépistage, de prévention et ainsi de suite, ça ne marche pas comme on voudrait. C'est-à-dire qu'on détecte beaucoup de petits cancers, mais qui ne sont pas ceux qui tuent. Quand vous faites les essais récents sur les mammographies, et beaucoup d'entre vos auditeurs ont fait faire des mammographies ou ont eu des mammographies, on se rend bien compte que ça ne change pas grand-chose. On n'a pas vidé les centres anticancéreux comme on a vidé les sanatoriums. Dans les années 50, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait 500 000 personnes qui vivaient de la tuberculose. C'était un vrai business. Puis ce business a disparu. On meurt plus de tuberculose, on n'a plus de sanatoriums, des choses comme ça. Les centres anticancéreux prospèrent. Alors, il n'y en a pas à Metz, mais il y en a à Nancy. Mais on ne les a pas vidés. D'où le propos du livre, c'est-à-dire d'essayer de tout repenser. Quand quelque chose ne marche pas, à un moment ou à un autre, c'est qu'il y a un problème. Alors le problème, évidemment, beaucoup de gens pensent que c'est l'argent, ce qui est probablement en partie le cas, mais c'est aussi que nos hypothèses ne sont pas bonnes. Nous ne traitons pas le cancer comme ce qu'il est.
Et vous avez cette phrase, cette vision vraiment intéressante, et pour la résumer en un mot, le cancer, il n'y a pas beaucoup de progrès, c'est un peu un échec médical. Par contre, le cancer, c'est un succès économique, dans le sens où, par exemple, sur les 10 médicaments les plus vendus au monde, 7 concernent le cancer ou des maladies auto-immunes, qui sont toutes les deux ces maladies proches au plan biochimique. Et donc, les traitements aussi contre le cancer, qui sont de plus en plus innovants pour certains et coûtent de plus en plus cher, là, oui, il y a un peu la même chose que ce que vous vous décriviez avec les sanatoriums un vrai marché qui existe. Et vous, en fait, en réaction à cet échec médical, vous avez eu l'idée depuis 20 ans de créer un groupe de scientifiques, notamment grâce à vos nombreux réseaux qu'on a cités, notamment aussi Polytechnique, un réseau donc de scientifiques multidisciplinaires. Et vous avez découvert, grâce à cette ouverture, grâce à cet échange interdisciplinaire, des mécanismes communs aux maladies, des sources communes aux maladies finalement.
Écoutez, je suis heureux d'être en Lorraine, parce qu'en Lorraine, on a lu mon livre, et je tiens à vous remercier de ça, d'avoir lu dans le détail. Je dirais, le propos de ce livre n'est pas de se lamenter sur l'échec. L'échec, tout le monde le voit, il n'y a qu'à voir la tête des gens quand on leur annonce un cancer. On voit bien que les gens savent bien que le traitement ne marche pas. Est-ce que les nouvelles immunothérapies apportent quelque chose ? Je suis dubitatif, mais peut-être j'ai tort. Toujours est-il que nous, on est parti sur l'idée que le cancer était une maladie simple, qu'il y avait différents types de cancers, il y en avait des plus ou moins agressifs, mais qu'au fond, c'était toujours la même chose. Et comme toujours, quand on fait un essai de remise à plat, on essaie de retrouver ce que les anciens pensaient, c'est-à-dire dans les années 1900. Ils n'étaient pas complètement idiots, ils avaient réfléchi à l'époque, et pour eux, le cancer était une question de métabolisme. Je vais essayer de vous le faire de façon à ce que ce soit compréhensible à la radio, mais tous les cancers captent le sucre, ça on le sait. Et quand vous voulez savoir si le cancer est étendu, métastatique ou ainsi de suite, vous injectez du sucre radioactif que vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle un PET scan, et la captation de sucre est la signature du cancer. Et ce qu'on est arrivé à démontrer, c'est que dans tous les cancers, le sucre était capté, et qu'il y avait ce qu'on appelle une fermentation, c'est-à-dire que la cellule brûle mal le sucre, et comme elle brûle mal, elle grossit, elle se divise en deux. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'effet Warburg, et que l'ensemble de ce qu'on voyait dans le cancer, c'était cette fermentation cancéreuse, cet effet Warburg. Donc le cancer n'est plus une maladie compliquée, un combat du bien et du mal et tout ce que vous voulez, mais une simple fermentation, et ça c'est connu dans les années 1920. Seulement ça a été largement oublié, et c'est le professeur Luc Montagnier, qui est malheureusement mort maintenant, qui m'en avait parlé dans les fins des années 90, et qui lui avait déjà travaillé à l'époque sur les virus qui induisaient le cancer, et ces virus induisaient le cancer en augmentant la captation de sucre et en faisant fermenter. Donc on se retrouve avec une maladie, somme toute, beaucoup plus simple qu'on le pense, un mode de fermentation. Ça brûle mal le sucre, et donc ça grossit et ça se divise, et comme ça se divise, ça métastase. Et ce qu'on a, nous, compris, la couche qu'on a rajoutée, c'est que cette fermentation cancéreuse, elle avait elle-même une cause, qui était une cause électronique. Et ça, j'y suis arrivé parce que les gens autour de moi sont des matheux et des physiciens, qu'on est des rats de bibliothèque et qu'on adore les équations. Et que surtout, nous n'avions pas de contrat à remplir et qu'on était libre de chercher dans ce qui nous semblait intéressant.
Et justement, j'en profite pour rebondir. C'est vrai que c'est toujours bien de poser la question, Dr Schwartz, sur les conflits d'intérêts. Est-ce que vous avez, vous, des liens d'intérêt, des conflits d'intérêts? J'ai vu dans d'autres interviews que vous déclariez que non. Je pose la deuxième question parce que la première, voilà, vous pourrez y répondre également. Vous êtes l'homme des remises en question et un groupe de scientifiques des remises en question. On est passé finalement d'une maladie compliquée, basé sur la volonté de comprendre le gène et de le maîtriser, à une vision de simplicité, comme vous le disiez, avec des mécanismes communs à plusieurs maladies, on y reviendra, et qui est, elle, métabolique. Et c'est presque aussi, vous questionnez là-dessus, c'est presque aussi une remise en question philosophique, puisque pour vous, lutter contre n'est pas la clé, que ce soit la radiothérapie ou la chimiothérapie, même si vous recommandez de continuer les traitements et que ce que vous apportez, c'est aussi en plus, mais plutôt de maîtriser un processus métabolique avec différentes molécules, plutôt que lutter contre et vouloir détruire les cellules cancéreuses. Vous avez cette phrase incroyable que peut-être le cancer va devenir une maladie qu'on pourra gérer, pas faire disparaître, mais pouvoir gérer comme le diabète, comme les diabétiques qui ont un protocole et qui maîtrisent leur évolution.
Attendez, il y a beaucoup de questions là-dedans. Conflit d'intérêt, j'ai un évident conflit d'intérêt, c'est que je voudrais que mes malades aillent mieux.
Ça, c'est le meilleur conflit d'intérêts.
Oui, c'est un vrai conflit d'intérêts. Mais j'ai aucun lien avec l'industrie pharma, ça vous en doutez bien. J'ai des liens de conflit avec l'industrie pharma multiples, mais ça, c'est autre chose. Vous savez, c'est toujours très difficile de débarquer dans le tableau scientifique et médiatique en disant, au fond, vous vous êtes trompé, c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air, et ça n'est que ça. C'est radicalement difficile, surtout qu'on s'est tous englués dans l'idée qu'on avait affaire à des maladies très très compliquées et que seule la high-tech allait nous sortir de là. Mais dans la vie, vous avez vécu, j'ai vécu, rien n'est jamais compliqué, tout est au fond très simple et on se rajoute des couches dessus pour faire que ce soit trop compliqué. Ce qu'on a, nous, sur le cancer actuellement, c'est des traitements qui sont probablement efficaces et complémentaires des thérapies existantes. Les thérapies existantes, il y a des choses qui sont très intéressantes. Elles peuvent guérir certains cancers, malheureusement pas très fréquents, et elles ont une forme d'efficacité, donc il ne faut pas les mettre, les jeter avec l'eau du bain. Et le bleu de méthylène ou d'autres molécules comme le dioxyde de chlore ou l'ivermectine sont extrêmement prometteuses et toutes les données qu'on engrange de recherche fondamentale vont toutes dans le même sens. Moi, je suis extrêmement confiant que le cancer va être traitable à relativement court terme et qu'au fond, il faudrait maintenant que les institutions dont c'est le boulot s'y mettent. Mais les institutions sont frileuses, elles sont dépendantes de financements industriels. Le bleu de méthylène à quelques euros le kilo ou l'ivermectine, c'est à peu près le même prix, ça n'intéresse personne. Et c'est un changement économique et un changement philosophique qu'il y a derrière. Et ça, ça prend le temps que ça prend et c'est hors ma main, quoi.
Ouais, parce que là, c'est plus vraiment le domaine scientifique, c'est le domaine de la remise en question, c'est un domaine humain, l'orgueil, la vanité, reconnaître qu'on ne sait pas tout, reconnaître qu'on a peut-être été sur une voie qui n'est pas la meilleure. Et c'est vrai que quand on regarde les multifactorialités de maladies telles le cancer, ça peut paraître compliqué. Est-ce qu'un des secrets finalement de vos avancées, c'est d'avoir quitté le niveau des cellules, de l'ADN, pour un niveau plus avancé de l'infiniment petit, celui des atomes et de la compréhension atomique?
Si vous voulez, le problème du cancer, c'est qu'il y a des plans de coupe différents. Pour cliniciens, c'est une masse dure, infiltrante, enfin le crabe, quoi. Pour le biologiste, c'est la cellule qui se divise en deux. En dessous, vous avez les enzymes qui interagissent les uns avec les autres. Et pour nous, c'est une question d'atomes. On est descendu à l'étage en dessous. Mais au fond, c'est ce qu'ont fait les physiciens, c'est ce qu'ont fait les chimistes. Tout se résume par des histoires d'électrons, de protons et ainsi de suite. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très, très utile d'être dans ce monde de physiciens, parce que tout se résume, au fond, à l'analyse des forces et à l'analyse de la chimie. Mais comme c'est souvent de la physique quantique, que les biologistes ne sont pas à l'aise en physique quantique, c'est des choses qu'ils n'ont pas vues. Et l'autre problème, c'est que quand vous partez dans des... Tout le monde parle de médecine translationnelle, de passer d'un monde à un autre. En réalité, tout est fermé. Et quand vous arrivez avec des bouts de réponses, voire les réponses, l'institution ne les attend pas. Et moi, j'ai essayé de convaincre les dirigeants de faire les essais thérapeutiques. Au fond, le bleu, l'acide lipoïque ou les différentes molécules que je pousse sont connues depuis, pour certaines, plus de 100 ans. Elles n'ont pas de toxicité évidente, enfin claire, nette. L'association n'est pas dangereuse. Les essais devraient être faits facilement. Ça coûte 2 francs 6 sous et ça peut marcher, ou ça devrait marcher.
Quand vous avez fait des conférences ou des ouvertures vers les politiques, je crois que vous avez fait des conférences au Sénat, est-ce qu'il y a certains politiques qui vous soutiennent clairement pour faire les essais, pour pousser les agendas à avancer sur ces sujets?
Non, j'ai jamais trouvé de politique qui soit en position de pouvoir qui m'ait poussé, enfin qui m'ait aidé. Par contre, ils m'ont permis de survivre. Vous imaginez volontiers que ce monde est un monde très compétitif et que quand on débarque avec des molécules qui très probablement sont efficaces, parce que la littérature le dit, parce que c'est connu, parce qu'on le redémontre, il y a tout de suite des levées de boucliers qui viennent. Or, les politiques m'ont permis de survivre, les attaques à droite, à gauche. Donc, je leur suis reconnaissant. Mais les politiques, ou en tout cas celles que je connais, n'ont pas le pouvoir suffisant pour induire les essais. Ça devient un problème éminemment sociétal, mais ça retrouve des données sur d'autres maladies où il y avait des produits qui étaient efficaces, qui étaient au fond presque les mêmes, hein, parce que le bleu a été efficace sur le Covid. Il y a des essais randomisés qui le montrent, et où les essais n'ont pas été faits ou de façon trop tardive.
Ouais, et il y a aussi deux start-up françaises qui avaient travaillé sur des, notamment une des start-up de l'Institut Pasteur de Lille, qui avait travaillé sur des anciennes molécules, et ils n'ont pas eu de soutien politique non plus, au contraire, pour faire les essais thérapeutiques pendant le Covid, ce qui paraît assez incroyable, puisqu'il y avait vraiment une demande urgente. Oui, le Covid, vous disiez vous avez remarqué que vos patients qui étaient en traitement par le bleu de méthylène, il y avait aussi des résultats sur le Covid. Alors, est-ce qu'ils ne déclaraient pas, ou en tout cas, ils n'avaient pas de forme grave? Je veux revenir sur le bleu de méthylène, qui est un médicament qui a induit beaucoup d'autres médicaments entre les années 20 et 50, antidépresseurs, neuroleptiques, la célèbre chloroquine, les anti-inflammatoires et à un autre niveau, les sulfamides, les antibactériens. Vous avez, il y a très peu d'effets secondaires, juste, je pense qu'il y a une association qu'il faut éviter avec un autre médicament, mais voilà, c'est vraiment un produit vraiment intéressant et prometteur, d'où le titre de votre livre. comment, dans vos tests, par exemple, chez les animaux, vous arrivez à faire des cocktails de ces différentes molécules, puisqu'il n'y a pas que le bleu de méthylène, mais il y en a plusieurs autres sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce que vous avez essayé toutes les combinaisons, toutes les doses, par exemple sur les animaux? Alors il y a l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate, le bleu de méthylène. Vous nous parliez aussi tout à l'heure de l'ivermectine, du dioxyde, je ne vais pas me tromper exactement, je ne sais plus ce qu'était le dioxyde de quoi. Comment, est-ce que c'est encore en cours ces essais chez les animaux, et comment on peut vérifier les interactions in vitro avec les animaux de ces molécules?
Attendez, vous bordez pas, vous pouvez pas tout border sur les données in vitro chez l'animal, mm-hmm. par essence même. Ce que les molécules que je pousse sont des molécules connues. Donc la toxicité est connue, le bleu de méthylène, c'est 1876, ça a été donné à des millions de personnes, on sait où est la dose toxique, et on sait que grosso modo c'est pas toxique. Les autres molécules, c'est ça. Donc ce qu'on veut essentiellement, c'est une preuve d'efficacité. Alors vous pouvez le faire sur des cellules innocentes en boîte de pétri, et vous pouvez le faire chez l'animal. Moi, j'aime bien la vérification chez l'animal. Alors, je sais que ça fait toujours hurler les écolos, mais je pense qu'il vaut mieux tester chez l'animal que chez l'homme. Et on injecte un cancer sous la peau de l'animal, et puis on fait le traitement, on regarde si ça pousse pas. Enfin, tout ça est largement maîtrisé au sens technique. Donc, nous, on avait fait 20 ou 25 000 souris, je m'en rappelle plus, pour trouver l'efficacité des premiers médicaments. Ça avait été un boulot qui avait pris 5 ans et 5 ou 6 personnes que j'avais fait faire à l'époque. Et là, maintenant, on a revérifié que le bleu inhibait la croissance des cellules tumorales. On l'a publié chez la souris. Et là, on est en train de regarder pour voir si l'ivermectine avec le bleu fait la même chose, voire mieux. Donc tout ceci avance, mais ça prend le temps de la recherche. Et le temps de la recherche est un temps lent, de contrôle de tout ce que vous voulez derrière, d'équations, enfin, c'est pas simple. Et il y a les malades qui sont là, ici et maintenant, et qui veulent ne pas mourir.
Et eux, ils sont parfois prêts, les patients eux-mêmes, en fonction de ce qu'ils sentent et de ce qu'ils veulent, de tester des protocoles par eux-mêmes. J'avais lu quelque part, vous nous direz si c'est le cas, qu'à l'époque, Agnès Buzyn avait un peu bloqué la proposition de faire des essais, mais que malgré tout, des patients ont d'eux-mêmes fait les essais de façon indépendante, quoi.
Mais les patients, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et moi, tout ce que je peux faire, c'est un, les pousser à ne pas arrêter la chimio ou la radiothérapie quand c'est nécessaire, parce qu'il y a pas mal de malades qui envoient tout bouler et je ne crois pas qu'ils aient raison. Et deuxièmement, les aider à prendre un traitement complémentaire efficace. Et il y a ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans, c'est Twitter. Et il y a plein de témoignages actuellement de gens qui prennent soit du bleu, soit de l'ivermectine, soit d'autres choses, et qui disent que leur cancer ne pousse plus. D'où l'idée pour certains malades qui, au fond, veulent autre chose, de prendre ces traitements. Moi, je vois quelques malades, je n'en vois pas beaucoup. Je ne fais jamais payer les malades parce que je ne veux pas tout mélanger avec du business, parce que ça me semble absurde. Et j'aide qui veut être aidé. Et surtout, je teste ce qu'il raconte. L'ivermectine n'est pas mon idée à moi. Donc là, on est en train de tester sur les cellules et bientôt chez animal, voir si c'est en complément du bleu. Tout ça est derrière, avec tout ça comme idée derrière, c'est que ça va lever l'effet Warburg, donc la fermentation cancéreuse dont je vous parlais plus avant. Maintenant, les malades sont paumés parce que l'ivermectine, ça se trouve pas, que c'est à des doses qui sont supérieures aux doses qui sont acceptables en France. Donc là-dedans, il y a un grand fouillis et que la seule façon de trier, c'est encore de voir si ça marche chez l'animal.
D'où les essais sur l'animal qui sont en cours,
voilà.
sur l'association des deux molécules ivermectine et bleu méthylène.
Et si par hasard, il y a des généreux donateurs qui ont quelques millions, hein, dont ils ne savent que faire, qu'ils contactent le site Guérir du cancer. Et voilà. Mais
la Fondation Guérir du cancer qui soutient vos travaux et qui travaille...
Enfin, dont on a toujours besoin d'argent, mais ce n'est pas non plus... Les essais sur l'ivermectine, c'est 80 000 euros. Je veux dire, c'est à la fois de l'argent et pas grand-chose, quoi. C'est pas des sommes non plus au-delà de tout espoir. Et pour moi, il y a un vrai sujet pour lequel je n'ai pas la solution aujourd'hui. C'est OK, ça marche dans les cancers qui évoluent en 2-3 ans. Mais sur les cancers qui sont en fin de circuit, ceux qui en général viennent me voir, ceux qui ont dit on ne peut plus rien pour vous, là, ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, l'idée qu'on a, ou qu'un ami à moi, à qui je bosse beaucoup, qui s'appelle Romain Attal, a émis, et je crois qu'il a raison, c'est que quand la cellule ne peut plus brûler, c'est au fond un retour avec un mécanisme biologique extrêmement primitif, des archébactéries, et ainsi de suite. Donc, on est en train de chercher si on ne peut pas trouver un produit qui tue, au fond, les cellules extrêmement primitives. Donc, on est en train de regarder dans les librairies s'il y a quelque chose là-dedans qui puisse être testable.
Dans vos travaux, vous remettez en question le concept, et vous allez nous préciser dans votre compréhension d'antioxydants, et que justement, vous décrivez la maladie du cancer, mais aussi d'autres, et on en reparlera aussi, d'autres maladies comme une fermentation, et que donc, ce qu'il faut, non pas des antioxydants, mais des prooxydants, donc remettre l'organisme vers la santé.
Il faut oxyder. Je reviens sur les notions de chimie qui sont peut-être un peu abscondes.
Oui, j'ai la partie de ma question.
Un lundi avant les fêtes à la radio, mais grosso modo, une cellule, si elle brûle, ne fait pas de masse et se divise. Donc brûler, c'est l'oxygène. Donc il faut des prooxydants. Et les molécules qu'on a sont des molécules oxydantes. Donc le bleu, l'ivermectine, tout ça, on l'a vérifié, l'acide lipoïque, on l'a vérifié. Mais, pour complexifier tout ça, elles sont souvent décrites dans la littérature comme antioxydantes, mais c'est une erreur. Ce sont des prooxydants, donc il faut que la cellule oxyde pour brûler. Quand vous brûlez, vous ne faites pas de masse. Si vous voulez faire du jogging autour de la Moselle à Metz ou je ne sais où vous êtes, vous ne ferez pas de masse. Donc il faut brûler et il faut trouver des molécules qui brûlent et où les bonnes combinaisons de molécules. Et pour ça, on a le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore, l'ivermectine et ainsi de suite.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire, docteur, pour préciser la question. Est-ce que ce qu'on appelle antioxydant, par exemple, je prends une des études récentes qui ont montré la concentration en antioxydants dans les patates douces violettes, la variété violette qu'on connaît moins en Europe, est-ce que ce qu'on appelait antioxydants, présents dans de nombreux aliments et présentés comme des bienfaits, est-ce que finalement ils sont bons pour nous ou est-ce qu'il faut les requalifier en Occident? Vous voyez ce que je veux dire?
Madame, il faut faire une échelle chimique, je ne peux pas vous répondre comme ça. Mais très souvent, ce que les gens décrivent comme des antioxydants sont des oxydants. C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent là, c'est que le monde du cancer est en train de bouger violemment. Que c'est un peu comme le Covid, ça se passe à l'écart de la grande presse. C'est pas sur BFM TV que ça se passe, mais que ça bouge et que quelque chose est en train d'émerger. Une relecture totale de la biologie, où il n'y a plus les bonnes cellules, les mauvaises cellules, les cellules folles. Il faut qu'on utilise notre système immunitaire pour tuer les cellules folles. Enfin, ça, c'est pour les gosses, ça. Tout est une affaire d'électrons, protons et neutrons. Que les molécules sont là et que la bonne combinaison est à trouver. Et que quelque part, ça devient un problème totalement sociétal qui va tout remettre en question, des patates violettes, que j'ai jamais goûtées d'ailleurs,
Patate
au
douce.
traitement des malades.
Et quand
Elles
vous
sont pas violettes?
parliez, docteur, quand vous parliez du jogging tout à l'heure, un des éléments que vous conseillez aussi, c'est la marche, c'est 10 km de marche par jour. Est-ce que justement cette pratique de jogging, de sport, de marche, c'est aussi un oxydant? On peut le qualifier
Oui,
d'oxydant?
vous allez brûler. Quand vous marchez, vous brûlez les réserves. C'est un système relativement tout ça et infiniment logique. Une cellule qui va bien est une cellule qui brûle. Une cellule qui fermente, donc qui ne brûle pas, est une cellule malade. Donc il faut que la cellule malade, qui ne brûle pas, rebrûle. Donc il y a des... faut arrêter de la gaver de nourriture. Il faut la faire brûler en faisant du sport et il faut relancer la combustion par des molécules diverses et variées.
Alors, un des paradoxes aussi, c'est que vous parliez du sucre, c'est bien de réduire le sucre, mais par exemple lors de jeûne ou de ce régime cétogène, quand l'organisme dépasse un certain stade avec le jeûne ou le régime cétogène, c'est comme si il passait dans un autre mode et donc finalement il va puiser autrement dans l'organisme. Et donc c'est une action qui est bonne, mais qu'il faut doser, je pense, le jeûne et le régime cétogène. C'est ce que j'ai compris en cherchant dans ce que vous expliquez, en faisant la. C'est à vous, voilà, de nous dire si c'est la
Oui,
bonne
oui.
compréhension.
La médecine s'est divisée en chapelles. Il y a plein de gens qui croient avoir la réponse, y compris moi d'ailleurs. Et au fond, il faut qu'on arrive à discuter. Le régime cétogène, c'est-à-dire manger du gras, c'est logique. Le cancer fermente le sucre, donc il faut bien passer à autre chose. Mais si vous prenez trop de gras, ben, le cancer va brûler du gras et ainsi de suite. Donc il y a encore des couches là-dedans qui ne sont pas totalement explorées. Moi, je crois qu'au fond, ce que je cherche et la raison pour laquelle je discute avec vous, c'est au fond qu'un mouvement citoyen se monte. Les molécules sont là. L'institution, quelque part, est très frileuse. Nous, on a validé que la démarche était logique. On a confirmé tout ça, on l'a reconfirmé, d'autres l'ont fait aussi, et il est temps, au moment où l'on parle, que les choses se mettent en place. Et comment on peut faire, et quelque chose qui m'est difficile, moi je sais gérer des malades, je sais gérer des matheux, et croyez-moi, ça n'est pas que simple, parce que les blagues de matheux, c'est très particulier, et le mode de pensée est très différent du mode habituel. Mais je ne sais pas gérer toute la partie politique d'une certaine façon d'aimable pression sur le gouvernement pour que les essais aient lieu.
C'est peut-être le rôle des citoyens.
C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose partout.
C'est peut-être le rôle des citoyens, justement, à qui vous passez le relais, que ce soit des associations, des ONG, des personnalités. Ce qu'on comprend dans votre travail, c'est que, et ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il y a une compréhension commune de toutes ces choses qui semblaient pas liées entre elles. Je prends deux exemples, la sédentarité versus le sport ou la marche, dont vous parliez, aussi l'explosion en 100 ans de la consommation de sucre, tous ces facteurs ont du sens quand on réfléchit sur la vision que vous proposez. Est-ce que donc ces mécanismes communs à la source des maladies, vous citez dans vos ouvrages bien sûr le cancer, mais aussi Alzheimer, Parkinson, des pathologies psychiques et psychiatriques, est-ce qu'il y a des maladies qui échappent à cette source commune au jour d'aujourd'hui, que vous n'arrivez pas à raccorder, et lesquels?
Non, pas pour l'instant. Là, j'ai un papier qui va sortir sur la psychiatrie. Alors, je ne suis pas psychiatre, mais les maladies psychiatriques ressemblent beaucoup au cancer, non pas par leur côté clinique, évidemment, un schizo et un cancéreux, ce n'est pas la même chose, mais... l'inflammation en fait le lit, il y a des problèmes de captation de sucre, il y a des problèmes mitochondriaux, enfin, biochimiquement, ça se ressemble. Et comme par hasard, le bleu qui lève ces problèmes électroniques dont je vous parlais plus avant, eh ben, il marche dans toutes ces maladies psychiatriques, et ainsi de suite. On se dirige vers un traitement de toutes les maladies, qui sera probablement à un moment ou à un autre extrêmement voisin. On a segmenté les maladies par organes. Le médecin généraliste s'occupe de l'alcoolisme, les pathogastro de la cirrhose et l'oncologue du cancer du foie qui va suivre. Mais au fond, tout ça, c'est la même chose. Il y a un fil logique là-dedans. Et toutes les maladies ont un point commun qui se trouve être dans l'électronique. Et dans la fermentation. C'est ça qu'on a compris. Et donc, à un moment, ça ouvre à plein d'autres choses. D'abord, à une autre compréhension du vivant. Le vivant est forcément beaucoup plus simple, quelque chose qui existe depuis 4 milliards d'années, qui n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes membranes, c'est toujours le même ADN, c'est toujours les mêmes compositions biochimiques. Et ben, c'est quelque chose de simple. Et quelque chose de simple, ben, ça a aussi une explication. Et ça, c'est aussi partiellement là où je vais, où nous allons, c'est essayer de comprendre le vivant dans son entièreté. Alors, ça sera une couche qu'on arrivera à défaire, mais dans le monde de difficultés dans lequel on est et de folie que vous connaissez comme moi, d'arriver avec une forme d'espoir de comprendre quelque chose, ça met un peu du baume au cœur. Et ça permettra peut-être à la société de redémarrer, c'est ce que j'ai en espoir.
Si on part, docteur, en vous remerciant encore de ces minutes passées avec nous, si on part du plus petit niveau, le niveau électronique, la pression électronique, si on part de ce concept de la fermentation et qu'on va vers des choses plus grandes, les mitochondries, une centrale énergétique pardon, de la cellule qui consomme l'oxygène, qui rejette le gaz carbonique, les gènes, les cellules, vous parlez de l'inflammation aussi, vous parliez de l'inflammation, la gestion du sucre. Est-ce qu'il y a des indicateurs aujourd'hui, des tests un peu sur le modèle de ce que peuvent faire, par exemple, les gens qui ont des problèmes, qui doivent prendre de l'insuline, les diabétiques? Est-ce qu'il y a des tests ou des indicateurs existants qu'on peut constater sur le corps qui sont à disposition pour surveiller tous ces indicateurs, finalement, que vous avez mis en lien et qui sont éclairés par votre compréhension plus globale des maladies?
Alors, On est en train de travailler à Bordeaux, au CNRS, sur une façon de, je vous parle en français courant, de doser la pression électronique. Donc ça, c'est en train de se faire toujours avec la Fondation Guerrier du Cancer. Pour les cancéreux, le problème, quand vous avez un diabète, vous piquez la glycémie 3 ou 4 fois par jour pour savoir où vous en êtes. Quand vous avez un cancer, vous faites les marqueurs tumoraux tous les mois ou tous les 2 mois. C'est beaucoup trop lent. Il faut vérifier ça de façon beaucoup plus proche pour voir si votre traitement marche. Les cancers sécrètent des protéines dont le plus connu est le PSA pour le cancer de la prostate. Vous dosez ça et vous savez si votre traitement marche ou ne marche pas. Et il faut suivre les malades de façon beaucoup plus proche que ce qu'on fait. On ne peut pas attendre 3 mois pour savoir si un traitement marche ou ne marche pas.
J'entendais dans une de vos interviews qu'il y a un moyen quand même qui est disponible, c'est se regarder dans la glace. C'est-à-dire que pour vous, finalement, et c'est très intéressant, et là on rentre à la fois dans le scientifique et le philosophique, que toutes ces origines de maladies sont aussi les origines des mécanismes communs avec le vieillissement. Et d'où l'idée que quand je me regarde dans la glace, que je regarde la peau de mes mains, les indicateurs, les cheveux blancs, j'ai une vision de où j'en suis dans ces mécanismes communs entre le vieillissement et la maladie. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ça?
Oui, mais prenez simplement les cheveux blancs. Quand vous aviez 20 ans, enfin, je ne vous connais pas, mais que vous vouliez changer de couleur de cheveux, vous faisiez un stress oxydant, vous mettiez de l'oxygéné sur les cheveux et les cheveux devenaient blancs, d'accord? Quand vous vieillissez, les cheveux deviennent blancs, là encore, parce que vous passez en fermentation et que l'oxygène n'atteint plus sa cible et trouve les cheveux. Tout ça n'est qu'une histoire d'électronique. Nous n'avons pas voulu le voir, nous n'avons pas pu le voir, mais c'est que de l'électronique et c'est somme toute très simple. Et si vous vieillissez, c'est pour une raison électronique qui ressemble beaucoup au cancer, qui ressemble beaucoup à l'Alzheimer et ainsi de suite. Ça veut dire que des traitements comme le bleu ou l'ivermectine ou tout ça pourraient avoir une façon de retarder le vieillissement aussi. Il y a ça qui est derrière aussi. Moi, je n'y suis pas allé scientifiquement parce que j'en avais assez sur le cancer, mais évidemment qu'il y a des gens qui ont regardé que le bleu limitait les rides ou des trucs comme ça. Et quelque part, on peut peut-être espérer aussi jouer sur l'espérance de vie des gens. Après, est-ce que c'est souhaitable? C'est autre chose.
Oui, là, on rentre dans la philosophie. Mais par exemple, les études sur la méditation, qui ont beaucoup été pratiquées, notamment aux États-Unis, ont montré, par exemple, que la pratique de la méditation augmente, hein, si je ne me trompe pas, la longueur des télomères, et donc il y a un indicateur, justement, de rajeunissement, pratiquement, des cellules. Est-ce que c'est une action aussi commune à ces molécules, notamment le bleu de méthylène?
Oui, mais quand vous êtes en phase de méditation, vous ralentissez votre métabolisme. Vous respirez plus lentement, vous êtes plus posé et tout ça. Je veux dire, si vous voulez, tout ça, c'est la même chose au sens biochimique du terme.
Et lorsqu'on ralentit le métabolisme, qu'est-ce qui se passe justement au niveau électronique, au niveau cellulaire?
Ça va moins vite et la pression diminue, c'est toujours la même chose.
D'accord.
Si vous voulez, là-dedans, vous avez des faisceaux d'arguments épars à droite à gauche, et nous qui sommes tout même très matheux, on remet tout ensemble. Mmh. Et ça, c'est le plaisir et la joie d'être avec d'autres personnes ou de réfléchir. Au fond, tout ceci est bien moins compliqué que son amère.
C'est peut-être l'une des découvertes et l'un des changements de paradigme les plus importants de l'histoire de la médecine, mais on comprend aussi que c'est de l'histoire de la science et que ça touche à la philosophie, parce qu'il y a le vieillissement, il y a des sources communes à tous les maladies qui seraient finalement des dérèglements de quelque chose. Donc on n'est plus vraiment dans lutter contre les maladies, mais plutôt de régler les choses avec les différents processus que nous avez expliqués, de régler les choses, de corriger, de réharmoniser. C'est un grand saut, ce que ces découvertes et cette vision, cette compréhension des maladies. Et peut-être j'ai envie de vous interroger sur... terminer l'interview par quelque chose de plus philosophique sur le sens de la vie, du vieillissement, peut-être aussi de la croyance en soi, des idées qui nous font du bien, comment ça peut aussi se combiner, presque une vision quantique, comment elle peut se combiner avec tous vos travaux scientifiques et quel espoir ça peut générer.
Je sors en mars un livre sur ça. Au fond, on n'a pas compris le cancer, on est en train de le comprendre ou on l'a compris, peu importe. Mais il y a toutes les fonctions supérieures. L'intelligence, la mémoire, tout ça, c'est absolument pas compris. Donc ça, c'est l'épisode suivant. Et on peut arriver à comprendre tout ça grâce au grand oublié de la biologie qui est l'eau. Et à un moment ou un autre, moi, j'essaye de simplifier tout ça pour en faire quelque chose d'acceptable. Et il est évident que vous, moi, on fait partie d'un continuum. Il n'est pas clair pour moi du tout que la mort soit une fin. Elle est peut-être simplement une transformation. Et il y a probablement quelque chose après. Je ne vois pas comment tester ça au labo. Mais de temps en temps, il faut ne pas avoir peur de se tromper parce que, ok, tout ceci est probablement correct, mais on ne peut pas en être sûr. Le cancer, c'était relativement simple. Il suffisait de se poser, de réfléchir et de tester certaines hypothèses. Les problèmes de conscience et ainsi de suite, on ne pourra que poser les hypothèses et on ne pourra pas les tester.
Merci beaucoup, docteur.
Je vous remercie de l'accueil chaleureux, du fait d'avoir lu mon livre. Et je souhaite une bonne journée en Lorraine, parce qu'ici, je suis Centre-Val-de-Loire et Sarraz.
Merci encore. Et puis, on a hâte aussi de découvrir votre nouveau livre, qui va être, on a compris, une ouverture aussi sur la spiritualité, l'intelligence, la mémoire. On a hâte de continuer avec vous cette révolution de la compréhension et de l'unification hein, aussi de tellement de choses, de maladies, de compréhension de fonctionnement de l'être humain et de sa spiritualité dans votre prochain livre. À très bientôt, Dr Schwartz. Merci à vous.
Merci.
RPL, partout en Lorraine.
Partout en Lorraine, sur 89.2.